L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur.
Bonjour et bienvenue dans le 282e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Je suis cette semaine, comme tous les dimanches, une semaine sur deux, sauf en cas d'indisponibilité. On s'excuse pour la semaine dernière, un petit contretemps nous a obligés à annuler l'émission, mais là je suis bien avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Alexandre.
Nous allons donc vous expliquer non pas l'actualité des deux, mais des quatre dernières semaines.
Quatre à la suite.
Merci Pierre, je vous passerai l'imitation de Julien Lepers. Et on va commencer par la France et le lien avec notre nouvel ancien allié préféré, à savoir les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas dit fasciste cette fois-ci.
Tu te modères, c'est bien.
Je me modère, on ne sait jamais comment ça peut se terminer tout ça.
C'est ça. Puis t'as envie de pouvoir aller passer des vacances aux États-Unis sans te faire arrêter à la frontière.
Non, alors j'ai pas envie d'aller en Turquie d'Erdogan, pas la Hongrie d'Orban et pas les États-Unis de Trump.
Tu m'étonnes.
Bon, l'Italie de Meloni non plus. À commencer à,
ça devient chaud,
à se réduire un petit peu. Et donc, on va parler de notre cher CNIL et de son avis consultatif, sur l'hébergement de santé par Microsoft et de transfert de ces données aux États-Unis, Pierre.
Bah, oui,
le projet Darwin.
Ah, j'avais pas retenu le nom du projet, tiens. Mais donc, oui.
Rien à voir avec un système d'exploitation qui servirait de base à macOS.
Non, du tout. Et donc oui, en fait, le but, c'est un noble but, le but c'est d'analyser les données de vie réelle sur les médicaments et les vaccins. Donc étudier les effets secondaires qui ont été déclarés au sein de toute l'Union européenne, c'est une bonne idée. Mais ben, le problème c'est qu'il y a des données qui sont stockées certes chez des partenaires français, mais aussi chez Microsoft. Et donc, ben, ça rappelle. Alors là, on ne parle pas du Health Data Hub, celui on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, mais ça, ben, ça rappelle cette situation-là, hélas. Et le problème, c'est que ben, la CNIL dit non, c'est pas une bonne idée. Il continue de dire que, ben, oui, vous avez le droit, légalement, a priori, dans le cadre qui est en place, oui, vous avez le droit, mais. Il y a des risques de communication des puissances étrangères. C'est une perte de. Alors, ils ne parlent pas en termes de souveraineté, mais ils disent, notamment, je les cite, il n'en reste pas moins que les données stockées par un hébergeur soumis à un droit extra-européen peuvent être exposées à un risque de communication à des puissances étrangères.
Surtout que la puissance étrangère fait quand même acte une certaine hostilité envers
tout le monde.
Le monde entier.
En ce moment, oui. Et donc, effectivement, là, certes. Ils disent oui, vous avez le droit, mais vous devriez mettre. Enfin, la CNIL incite le gouvernement et la PDS, alors je ne me souviens plus de toutes les abréviations, il y en a un peu beaucoup dans ces projets-là. Mais donc, le gouvernement et la PDS, enfin, la CNIL les incite à travailler activement à la mise en place d'une solution souveraine permettant aux organismes d'avoir accès rapidement aux données du SNDS à des fins de recherche scientifique. Et ils insistent parce que ben, ça n'avance pas.
Et on sent chez nos chers GAFAM un certain esprit de collaboration envers l'administration.
Exactement.
Trump. On reste en.
On fait laquelle ? Il y en a plein.
On fait laquelle ? Oh là là, nous sommes forcément. Hein, si on ne fait pas l'émission la semaine dernière, on est.
On en a trop.
On en a beaucoup. Tiens, l'infrastructure des logiciels libres attaquée par la stupidité artificielle.
Tout à fait. Il y a beaucoup de projets de logiciels libres qui se plaignent de ça actuellement. Et c'est vrai que. Alors, on en a parlé très brièvement de cet aspect-là, mais effectivement, pour beaucoup de projets, c'est extrêmement problématique. L'intelligence artificielle, c'est le principe, c'est des algorithmes qui doivent apprendre. Sur quoi ils apprennent ? Sur du contenu qui est pillé sur Internet. Hein. De préférence, on prend le contenu un peu partout sans respecter la moindre licence. Et ben, si on veut faire notamment des intelligences artificielles qui soient capables de réaliser du code, il faut qu'ils puissent apprendre sur du code source, et donc le mieux, c'est de prendre le code source du logiciel libre et open source. Mais c'est à un point que les SourceHut, GNOME, KDE, ces trois grands projets-là, leurs infrastructures sont saturées
parce de requêtes.
Donc, en gros, ils estiment que 97%, pas 10%, pas 20%, 97%, la quasi-totalité de leur trafic, c'est des bots et c'est en majeure partie de l'intelligence artificielle.
Est-ce que devoir...
97% du trafic.
Devoir mettre en place des CAPTCHA
Ben si, mais ça les emmerde parce que les CAPTCHA, ben, il y a beaucoup de CAPTCHA qui partent chez...
Oui, c'est pour utiliser une CAPTCHA Google, autres, je suis d'accord que...
Donc il y a des solutions qu'ils mettent en place, alors notamment ils mettent en place la solution Anubis. J'avoue, j'ai pas trop creusé pour les détails de cette solution technique-là, enfin j'ai pas recreusé, mais ça a des... le problème c'est qu'à chaque fois ça a des conséquences pour les utilisateurs. Il y a des usages légitimes, il y a des automatisations qui peuvent être tout à fait légitimes sur ces plateformes-là. Donc c'est très compliqué à doser et tout ça c'est parce que quelques... aux entreprises, ben des méta, des, ben en fait les GAFAM, vont pomper tout ce qu'ils peuvent sur Internet. J'avoue, j'ai pas regardé, j'héberge un Giti chez moi avec quelques projets, je sais pas si ça se trouve, le gros du trafic maintenant c'est des IA, je jetterai un œil à l'occasion. Mais c'est assez inquiétant parce que, je rappelle, vous ne payez pas votre bande passante chez vous, vous payez un abonnement mensuel et entre guillemets vous avez une bande passante illimitée, ce qui n'est pas vrai. Votre opérateur vous fera bien la remarque si vous la consommez si vous consommez tout ce qu'il vous propose. Mais dans le cas d'hébergement professionnel, on paye à la bande passante consommée. On a un quota mensuel et au-delà de ce quota, on paye. Donc ces bots font payer à des projets libres l'apprentissage de plateformes propriétaires.
Bon, on a bien compris que le pillage était quand même un des piliers de l'IA et de l'entraînement de ces modèles.
Actuellement, oui.
Alors, souvenez-vous, les Jeux Olympiques, donc dans la panoplie de technologies de surveillance, a été l'occasion pour le gouvernement d'expérimenter la vidéosurveillance algorithmique. Quels ont été les résultats? Nuls, ou presque. Encore, a priori, un ramasseur de champignons égaré.
Si pratique.
Et donc, le gouvernement a donc décidé d'introduire un amendement dans le projet de loi sur la surveillance en ligne pour prolonger donc la vidéosurveillance algorithmique après mars 2025, donc qui était la date de fin, et pour que la SNCF et la RATP puissent s'en servir.
Jusqu'en 2027.
Jusqu'en 2027.
Et petit rappel fort sympathique, le projet a coûté seulement, c'est combien, 800 000 euros. Voilà, c'est petit, c'est pas grand-chose. Ça n'a pas coûté très cher pour, au final, effectivement, ça n'a servi à rien.
Alors, c'est le projet de loi relatif au renforcement de la sûreté dans les transports. Pardon.
Oui. Voilà, c'est pas... Effectivement, c'est des caméras qui sont très fortes. Elles sont capables de voir quelqu'un et de l'arrêter. C'est des caméras robots, en fait. Non ? C'est pas ça ?
Ouais, c'est de la vidéo... Attention, c'est pas de la vidéosurveillance, Pierre, c'est de la vidéoprotection.
Ah oui,
la
c'est vrai.
La caméra va venir te défendre si tu te fais agresser.
Et donc, il a été déterminé dans le rapport, notamment, il y a eu des députés qui ont fait un rapport avant qu'il y ait eu ce vote. Sur les 8 cas d'usage autorisés par la loi, 4 ne fonctionnaient pas. Voilà, c'est très pratique. Donc, ben, y a un espoir, c'est que le Conseil constitutionnel censure cette prolongation, parce que ben, c'est...
Avec 42-78% de cas de faux positifs ou de fausses alertes.
Ah oui, c'est vrai, oui. Et donc, voilà, le fait que ça ne tienne pas en compte du bilan, l'article en question, donc, pourrait être invalidé.
En tout cas, un recours a été déposé devant le Conseil constitutionnel.
Voilà, c'est en fait aussi le projet de loi dans lequel c'est passé, ça ne correspond pas vraiment à la portée complète de la vidéoprotection en question. Donc on espère, espérons, parce que tant que ça ne marche pas, on prolonge les tests, et au bout d'un moment, si ça marche, on prolongera les tests. J'ai l'impression que c'est ça un peu le principe.
Un petit côté Shadok.
Exactement.
On continue, tiens, on parle beaucoup... des États-Unis et donc du nouveau contexte géopolitique. Pierre, tu as fait un peu de prospective sur quelles seraient les opportunités pour la technologie en Europe, donc le logiciel européen, suite à ces mesures isolationnistes prises par les États-Unis et donc bah, la peur, en tout cas le danger qui pourrait être identifié, en tout cas on l'espère, par les gouvernements européens. Ils l'ont vu en matière de défense, est-ce qu'ils le verront également en matière de logiciels, en matière de technologie de l'information de manière générale ?
Alors, on va déjà commencer par vraiment, il y a des choses qui ne... Comment dire ? Je ne sais pas, chers auditeurs, comment vous vous informez, mais il y a des choses quand même qu'on...
Grâce à cette émission,
qu'on peut suivre aux États-Unis dans les actualités qui sont vraiment inquiétantes. Non, je n'ai même pas la possibilité de tout citer dans cette émission tellement il y en a tout le temps en ce moment. Mais donc, on a quand même... En fait, on parle de prise de contrôle techno-fasciste aux États-Unis en ce moment. On a quand même des dirigeants d'entreprises de la tech, donc des génies, entre guillemets, de la Silicon Valley, qui poussent Trump pour créer des Freedom Cities. En as-tu entendu parler, Alexandre ?
Ça me dit vaguement quelque chose, mais ça, j'ai pas...
Des villes de la liberté.
De la liberté des riches.
Non, c'est pire. C'est des villes qui n'auraient plus de gouvernement. C'est des villes qui seraient dirigées par des entreprises.
Oui, on appelle ça la féodalité, en fait.
Oui, voilà, mais une ville gérée par une entreprise. J'avoue, ça marche pas dans ma tête. Hein. Ça marche, y a un problème.
On appelle ça des cités minières, Pierre.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Non, mais on en arrive là. Donc forcément, ça justifie... Parce qu'il y a un programme politique de ces entreprises-là, ça justifie pour...
Et liberté de quoi, d'ailleurs, en sachant que les entreprises ne sont pas, sauf exception, les sociétés coopératives, les SCOP, c'est leur statut, enfin en tout cas, statut français des entreprises démocratiques. L'entreprise, il y a donc un patron...
Non, mais leur but, c'est pas
qui
de la démocratie.
Qui possède ou pas ça.
C'est leur but, c'est d'être libre de faire ce qu'ils veulent sans réglementation d'un gouvernement, c'est tout. C'est tout. C'est...
L'anarchisme appliqué aux entreprises.
C'est ça, non, c'est l'entreprise qui décide tout. C'est pas de l'anarchie. Hein. Il y a bien des personnes qui décident, mais c'est juste les dirigeants d'entreprise, personne d'autre. C'est une forme de dictature. C'est magnifique ce qu'ils ont comme projet.
Moi, j'appelle ça la féodalité. Et chacun
c'est pas mal aussi.
C'est chacun son c'est petit proche. Seigneur. Chaque seigneur possède sa petite ville.
Et donc, ben, au niveau européen, en dehors effectivement des projets de défense, comme tu as parlé, on a reparlé ces dernières semaines du coup de EUOS. C'est l'initiative poussée par l'Union européenne pour avoir une distribution Linux développée donc, pour les besoins de l'Union européenne. Le problème, c'est que c'est encore assez flou pour l'instant. On sait que c'est faisable. Ils vont pas partir de rien. Ils vont se prendre une distribution Linux existante et ensuite.
C'est même le principe du libre. Hein, c'est de pas. Et c'est même l'intérêt, c'est que le logiciel libre ayant pour principal, la meilleure liberté, c'est la liberté d'utiliser pour tous les usages. D'ailleurs, il n'y a pas de restriction d'usage, sinon c'est pas un logiciel libre. Il n'y a aucun obstacle légal qui empêche l'utilisation du code créé par qui que ce soit, dans la mesure où c'est une licence libre, type licence GPL ou autre.
C'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de sujets à discuter sur tout ça, et je crois que j'en avais parlé il y a déjà un mois. J'avoue que j'ai pas refouillé les archives de l'émission d'avant, mais... Moi, l'une des choses qui me gêne quand on parle de souveraineté informatique, c'est qu'à aucun moment on ne reparle de la problématique du matériel lui-même. Le matériel qui
Alors,
est
entièrement... Alors, je pense qu'on avait parlé de plans de la Commission européenne pour recréer une filiale de semi-conducteurs européens.
On en avait parlé un petit peu,
mais... Je ne sais plus de quand ça date, là.
Le problème, c'est que là, dans ces sujets-là, on n'en parle pas, et c'est... Avec les barrières douanières, notamment de Trump, ça peut devenir un sujet vraiment important, et... On a toute la technologie pour le faire.
Les États-Unis produisent pas beaucoup de puces.
Les États-Unis, depuis 3-4 ans, donc ça a commencé sous Biden, mais Trump va continuer à pousser dans ce sens-là, ils incitent, on va dire, très fortement Intel, Apple, et AMD, ils l'ont pas fait, je crois, mais ils ont poussé Intel et Apple à avoir des productions de puces sur le sol américain. Donc, le problème, c'est que nous, on n'a aucune puce d'ordinateur qui soit produite, enfin aucun processeur d'ordinateur qui soit produit sur le continent européen.
On a qui ? On a.
Il y a AMD, Intel, et les fabricants d'armes, donc il y en a quelques-uns, t'as des Samsung, t'as des STM32, mais.
Qui n'a pas resté Microelectronics.
Voilà, mais les STM32, c'est du microcontrôleur, j'aurais même pas dû les citer. Mais sur les ordinateurs eux-mêmes, il y a des Rockchip, il y a des MediaTek, des Qualcomm, tout ça, c'est fabriqué à Taïwan. ou aux États-Unis pour certaines puces Apple ou certaines puces Intel maintenant. Donc y a, on parle de souveraineté, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Alors moi, je ne vais pas être à dire cocorico, on a un ordinateur où tous les composants sont fabriqués en Europe, mais ben, si on commence à poser la question de la souveraineté, il faut partir, il faut commencer à quelle étape ? Peut-être que l'étape du matériel est à creuser aussi.
Puis après, il y a le matériel, il y a obtenir du silicium, enfin de la silice, des terres rares. Enfin, il y a quand même il y a la question de la prise de monnaie. On ne va pas vous faire non plus.
Hein, non, on pourrait faire une émission complète sur ça, je pense.
Ouais, c'est ça, ça mériterait une phase B. Si quelqu'un veut créer, veut reprendre la phase B, en tout cas, le créneau a été libéré par nos amis de la deuxième ligne. Nous allons commencer par écouter un premier morceau de musique donc avec Danois Tandora. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Pasó cuando te vi bailando, no imaginaba que me volvería a pasar, pero sucedió, ya me estabas tentando, fue tu mirada lo que a mí me hizo pensar, que quiero ser el culpable de tu alegría, la sal que llene de amor tu vida en este mar de felicidad. Como el sol brilla, solo lo bueno puede pasar. Tiéntame, tentadora, solo te pido ahora. Tiéntame, tentadora, que ya no aguanto esta soledad. Tiéntame, tentadora, solo te pido ahora. Tiéntame, tentadora, lo nuestro no fue casualidad. Tiéntame, sedúceme. Esperando, has encontrado al fin un hombre de verdad. Dime, mi amor, que lo estás deseando. Usa tus armas para hacerme recordar que quiero ser el culpable de tu alegría, la sal que llene de amor tu vida en este mar de felicidad. Hacerte ver que ya lo malo quedó en la orilla. Como el sol brilla, solo algo bueno puede pasar. Tiéntame, tentadora, solo te pido ahora. Tiéntame, tentadora, que ya no aguanto esta soledad. Tiéntame, tentadora, solo te pido ahora. Tiéntame, tentadora, lo nuestro no fue casualidad.
Un petit peu de musique latino dans l'écho d'Egnou, ça nous change. C'était donc Danois Tandora. Vous écoutez donc l'écho d'Egnou sur Radio Campus 106,6. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler sécurité, pas au sens de Retailleau et compagnie, mais la sécurité informatique. Et on va parler du langage Rust qui plaît tant à Pierre.
Ah non, mais pas spécialement. C'est juste qu'il est fait pour la sécurité.
Tu vois d'un bon œil en tout cas.
Oui.
Voilà. Et donc Chrome, donc le navigateur internet de Google, change son gestionnaire de police, toujours pas de sécurité, mais de police d'impression.
De fonte de caractère.
De fonte de caractère. Donc pour un nouveau écrit dans le langage Rust. Et là, je
Tout
vais
laisser
parler le développeur que tu es.
Juste, tu sais pourquoi on parle de fonte en anglais ?
Oh, ça vient du français, probablement.
Exactement, ça vient du
français. Il y a un tiers, je crois, du vocabulaire de l'anglais qui vient du français.
Oui, tout à fait. Parce que, en fait, c'était le métal dans lequel on forgeait les caractères. C'était des fontes.
Et en plus, on se cultive dans cette émission.
Voilà. Et donc, le gestionnaire de police dans un navigateur web, c'est un chouïa sensible. Parce que votre navigateur web, c'est quand même un gros monstre qui donne à la fois accès aux polices de caractère installées sur votre machine, et les sites web peuvent mettre n'importe quelle police de caractère en plus. Et il est censé afficher tout ça, sachant qu'une police de caractère, c'est un programme.
C'est-à-dire que... voilà, je vais résumer ce que tu as dit. Donc, le navigateur Internet, les sites Internet peuvent librement... Enfin, librement... Peuvent... par ce biais, écrire des données sur votre ordinateur et
c'est le principe.
Des programmes sur votre ordinateur.
Ben, oui, c'est le principe. Non, mais ils peuvent choisir.
C'est... On laisse, voilà, qu'on expose, pardon, la problématique clairement.
C'est exactement.
Pas que tu n'es pas clair, Pierre, mais.
Et l'un des soucis, c'est que la gestion des polices de caractère, c'est pas compliqué, c'est pas très compliqué, c'est très 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 compliqué. Vraiment, c'est un sujet. Lourd. Il faut des années pour faire un bon système de rendu de police et de prendre tous les cas en compte. Parce que nous, on est très mignons avec nos alphabets simples et éventuellement, voilà, on a 2-3 accents qui se promènent.
Un petit peu de complexité dans les langues latines.
Mais c'est rien par rapport à des langues, l'arabe, le chinois, le japonais.
D'abord, le cyrillique, ça reste du latin.
Voilà, le cyrillique, ça va encore. Mais voilà, quand on commence à parler d'arabe, les notions de souligner du texte en arabe, j'ai déjà vu des articles sur ça, parce que c'est des points qui sont compliqués à implémenter, justement. Les ligatures sont très complexes à mettre en œuvre, et c'est ce qui fait que les polices de caractère sont des vrais programmes, c'est pour gérer tous ces cas complexes. Donc, c'est un travail titanesque de faire tout ça, et les développeurs des navigateurs web n'ont pas recréé à chaque fois tout le nécessaire pour gérer les polices de caractère. Ils ont réutilisé ce qui était fourni par les systèmes d'exploitation, avec un défaut, c'est que ça n'a pas forcément été conçu à l'époque dans l'optique de on peut mettre n'importe quelle police de caractère dedans. Et donc, régulièrement, c'est une source de failles de sécurité, et ça sert à faire tomber des navigateurs web lors de tests, lors de concours d'exploitation de navigateurs. Et donc là, c'est un bon grand pan de sécurité, enfin de source de failles de sécurité là-dedans qui va tomber, avec donc le projet pour Chrome de remplacer toute une partie de la gestion des polices de caractère, donc remplacer FreeType par Scrifa, vous pouviez choisir un nom plus prononçable, afin de remplacer tout un pan qui était écrit en C et qui n'est pas forcément du coup conçu pour la sécurité, le remplacer par quelque chose en Rust conçu pour la sécurité, tout en maintenant un niveau de performance correct.
Est-ce qu'il y a une adhérence entre le moteur de rendu et donc le gestionnaire de police ?
Non, on pourrait très bien imaginer avoir ce gestionnaire de police être utilisé par d'autres projets, utilisés sur les environnements de bureau Linux, ce genre de choses. Le problème, ça reste la compatibilité. Il faut que les autres outils se mettent à utiliser ce gestionnaire de police. C'est une migration qui est quand même pas anodine.
Un petit pan sur le bec.
Tout à fait, un petit pan sur le bec, un petit peu mérité. Donc il y a une actualité qui est passée, qu'on a passée il y a un mois, où on parlait d'une puce, la puce Bluetooth, de la partie Bluetooth dans les puces ESP32, où des chercheurs avaient annoncé avoir découvert des commandes cachées et tout le monde avait commencé à parler de backdoor.
Alors, mais c'est pas si simple.
C'est pas si simple. J'en avais parlé ici en mettant quand même 2-3 pincettes en disant on n'a pas les détails. Et donc, c'est confirmé, a priori, c'est juste des commandes non documentées, il n'y a pas de choses exploitables a priori, et c'est des commandes internes qui sont nécessaires, c'est pas des portes dérobées, c'est pas quelque chose qui a été mis de manière malveillante, c'est une fonctionnalité qui était nécessaire, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Ils ont même essayé d'être très très transparents sur ça pour éviter qu'on les attaque là-dessus. Et l'entreprise qui a révélé les failles de sécurité, du coup, est accusée de FUD. Donc, répondre la peur, l'incertitude et le doute.
Le FUD.
Et donc, toutes mes excuses pour avoir propagé cette même chose.
Alors, puisque on imite un peu le palmipède avec le pan sur le bec, est-ce que nous nous attribuons une pénitence ?
Oh non, c'est bon.
Non, pas de pénitence pour nous. Oh, ça va. Sécurité contre coût de développement des pilotes Windows, Pierre.
Oui, tout à fait. Alors celle-là, elle est assez rigolote. On va faire un tout petit peu d'archéologie pour l'expliquer. Il y a quelques années, il y a 10 ans, plus que ça maintenant, on est en 2025, Donc il y a 20 ans, quand vous achetiez un ordinateur, il tournait avec Windows ou autre système, mais en fait votre ordinateur était surtout en 32 bits à l'époque. Et dans le monde de Windows, à chaque fois, vous aviez la possibilité d'installer un pilote. N'importe qui pouvait développer un pilote de périphérique et le donner à son voisin, à quelqu'un d'autre, pour dire voilà, tiens, tu peux installer ça. Et le problème, c'est que les pilotes de périphériques, c'est des programmes très, 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 très sensibles en termes de sécurité informatique, justement, et en termes de stabilité du système. Et avec l'arrivée des ordinateurs 64 bits, Microsoft a commencé quelque chose. Ils se sont dit, bon, c'est l'occasion, les gens ont besoin de nouveaux pilotes, ils ont besoin de migrer à ça. Ben, puisqu'on a besoin de nouveaux pilotes, on va en profiter pour ajouter une règle. Désormais, les pilotes doivent être signés, c'est nous qu'on fournit la signature. Pas con, parce que comme ça, effectivement, ils peuvent contrôler que Jean-Michel, dans son coin, ne peut pas faire un faux pilote de périphérique qui contient des portes dérobées ou justement qui sert à exploiter les machines à distance. C'est pas forcément con au niveau sécurité, même si ça a des conséquences. Et là, on les voit, parce que, en fait, beaucoup d'applications, donc de contrôle de ventilateur, de contrôle de LED, ce genre de choses sous Windows, beaucoup de ces applications ont commencé à ne plus fonctionner.
Parce que le pilote n'était plus signé.
Non, pire. Parce que le pilote en question a été considéré comme logiciel malveillant par Windows Defender, donc l'antivirus par défaut de Windows. Parce qu'en fait, WinRing Zero, c'est le nom du pilote en question. WinRing Zero a été utilisé pour faire des mauvaises choses aussi. Oui, il y a des gens qui s'en sont servis. En fait, c'est un pilote générique qui permettait aux gens de faire des pilotes de périphériques sans avoir à faire re-signer, à payer centaines ou milliers de dollars à Microsoft. Du coup, la question, c'est comment qu'on fait quand on est un petit fabricant de matériel ou qu'on a un bidouilleur dans son coin pour faire un pilote de périphérique sans avoir à payer.
Alors, c'est une faille de sécurité, parce qu'au final, si chacun peut avoir un pilote signé par Microsoft, c'est de méta-signature que...
Oui, mais comment tu fais? Voilà, c'est compliqué. Est-ce que le tout gratuit, ça marche pas forcément. Mais en même temps, si tu veux faire du logiciel libre là-dedans, par exemple, c'est très compliqué. Windows n'est pas compatible avec le logiciel libre quand tu vois ce genre de restrictions.
Alors, Fedora 43 espère avoir des compilations reproductibles.
Oui.
Explique-moi le concept de compilation reproductible.
Tout à fait. On en a parlé il y a quelques mois, mais c'est l'occasion. On en a parlé il y a quelques mois à l'occasion d'une grosse faille de sécurité sur XZ, c'était.
Parce que quand tu compiles du code, tu as le même résultat.
Non. Et voilà, c'est ça le problème.
C'est assez contre-intuitif.
C'est contre-intuitif. Lorsque on prend un code source donné, parce que les développeurs écrivent du code source, ils ne parlent pas en langage machine, nous ne sommes plus dans les années 70. Donc, lorsque le développeur écrit son code source en C, C++, on va rester sur le C, juste pour que ce soit plus simple. Vous prenez un compilateur. Vous compilez pour une machine donnée, vous obtenez un fichier binaire. Des fois, il suffit de recompiler pour que ça fasse un fichier binaire légèrement différent.
Avec la même machine.
Avec la même machine.
Avec le même logiciel.
Oui, parce que juste dans les instructions de compilation, il a mis l'heure de la compilation pour le mettre dans le à propos du logiciel.
Sans avoir de particules solaires qui viennent.
Non, mais voilà, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as ce genre de chance, ça devient compliqué. Et c'est l'exemple le plus simple pour illustrer le problème du non reproductible. Parce qu'après, tu changes de version compilateur, ça change. Tu changes des éléments du système qui sont utilisés lors de la compilation, ça peut changer. Il y a plein de choses. L'ordre, ne serait-ce que l'ordre dans lequel les fonctions sont écrites à la fin, s'il n'est pas fixe, ça pose problème.
C'est-à-dire que si je prends un même programme, je le compile le même à 5 minutes d'intervalle, et je vais pas avoir le même checksum.
Pas forcément. Et le but des compilations reproductibles, c'est que justement ce soit la même chose. Et donc là, l'objectif pour le projet Fedora, c'est d'atteindre 99% des paquets de la distribution qui soient reproductibles. C'est-à-dire que vous avez un paquet et vous pouvez, chez vous, reprendre le code source, les instructions de compilation, refaire ça, et vous obtiendrez exactement le même fichier, ce qui permet de démontrer qu'il n'y a pas eu d'attaque, que le fichier que vous avez téléchargé est bien correct et qu'on ne vous a pas menti, qu'il n'y a pas une porte dérobée qui a été ajoutée quelque part sur la chaîne de production.
Alors, 1% pouvant faire plusieurs dizaines de paquets.
Oui.
Quels sont les paquets en question? Si des paquets comptent.
Ils visent les paquets les plus sensibles. Il y a quelques problèmes. Il y a des, en fait, les problèmes ne sont pas sur des langages comme le C ou le C++, qui sont relativement simples. C'est plus au niveau de, notamment du langage de programmation Haskell, le Go. Il y a deux, trois éléments. Il y a des éléments qui sont vraiment dynamiques, qui sont générés à la compilation, qui sont très compliqués à automatiser, mais ils travaillent là-dessus aussi.
Merci Pierre. La dégeekalisation, c'est après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Juan Carrizo, Elle est mortale. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Juan Carrizo, El Immortal, vous m'excuserez l'accent espagnol absolument déplorable. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, aujourd'hui au programme, parlons de la durée de vie des ordinateurs modernes. Et je pense qu'il y aura peut-être une petite allusion à l'obsolescence programmée.
Tout à fait, on va commencer par un petit rappel. Tout petit.
Rappel des épisodes précédents.
Ouais, loin l'épisode précédent. Donc là, nous sommes à l'émission numéro 282. Je voudrais juste rappeler une actualité de l'émission numéro 118. Ça date un peu, c'était en octobre 2015. À l'époque, Microsoft avait annoncé que Windows 10 serait la dernière version de Windows.
Loupé.
Voilà, loupé. Il y a eu Windows 11. Voilà. C'était juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. On va parler un petit peu de tout ça. Donc... nous approchons du mois d'octobre, octobre 2025, le 14 octobre 2025. Que va-t-il se passer, Alexandre ?
La fin du support de Windows 10 ?
Tout à fait. Si vous avez un ordinateur sous Windows 10, à partir du 15 octobre 2025, il ne va pas exploser. Mais s'il y a des failles de sécurité, s'il y a des problèmes de des composants logiciels qui nécessitent des mises à jour, par exemple, vous voulez télécharger la dernière application et elle vous dit eh non, j'ai besoin de cette mise à jour-là, cette fonctionnalité-là.
Vous l'aurez dans l'os.
Alors, sauf si vous avez un portefeuille et que vous avez payé le support
le
étendu.
Oui. Qui est quand même courant chez les entreprises parce que voilà, il faut aussi.
Beaucoup d'entreprises sont en train de passer à Windows 11 parce qu'ils n'ont pas envie de payer ce contrat de support étendu. Heureusement, nos chers amis de Microsoft ont déclaré une solution toute simple.
Racheter un ordinateur ?
Voilà, racheter un ordinateur. Enfin, voilà, c'est bon.
Un ordinateur vieux de 10 ans, il y a un moment... Hein.
Voilà. Donc, voilà, c'est la réponse officielle de Microsoft. Et c'est pas une blague. C'est vraiment, c'est la communication officielle.
Et moi, je vais avoir une barrette de RAM supplémentaire après de passer. Ils se sont rendus compte que 4 gigas, c'était pas assez.
4 gigas aujourd'hui. Et donc, ben, c'est un peu l'occasion quand même de reparler d'un petit phénomène. C'est la durée de vie des ordinateurs modernes. Moi, je me souviens du premier ordinateur qu'il y a eu dans ma famille, du premier PC, donc un 386SX, 25 MHz, 4 MB de RAM, et je pourrais même vous donner la suite des specs.
Je commençais avec un 486DX4 à 100 MHz. Ah, sauf que le Pentium 2 était déjà sorti.
Ah ouais, moi non, il n'était pas encore sorti. Et donc c'était en 92 de mémoire.
C'était en 97, moi tu vois.
Cet ordinateur a tenu 4 ans, on l'a remplacé par un Pentium 2 à ce moment-là.
En 96 ?
En 97, 96, ouais, quelque chose comme ça à peu près. Et on l'a remplacé par un Pentium 2 avec un Windows 95. Le premier était sous Windows 3.1. Ensuite, on a attendu quelques années, on est passé sur une machine qui atteignait le gigahertz avec un processeur AMD et Windows 98, juste avant que Windows XP ne sorte. Puis après, j'ai commencé à voir ma machine et donc là, on ne va plus parler de cet aspect-là. Mais là, maintenant, je peux parler du PC de mon père. C'est un PC que je lui ai monté en 2009. Et y a juste eu un composant qu'il a fallu changer régulièrement, la carte graphique, parce que c'était une carte Nvidia. Et Nvidia, au bout d'un moment, ils disent « Ah non, on ne fait plus de mise à jour et on ne fait plus de support. » Donc, il a fallu changer la carte régulièrement.
Au final, on a plutôt progressé, en fait. Ce que je me souviens, qu'avec surtout... Alors, c'était les jeux vidéo, surtout, qui demandaient de la puissance phénoménale et des augmentations régulières.
Bah voilà, donc, c'est final, ça mon point.
Le fait que la machine, si on joue pas, si on n'utilise pas sans utilisation graphique, bon, moi mon PC a 6 ans. Bon, sauf quand je veux ouvrir des cartes assez, avec des images très lourdes. Voilà, je sens que.
Exactement.
Mais au final, faire un peu d'admin, du navigateur, du LibreOffice. Bon.
Voilà, sur le PC de mon père, j'ai remplacé le disque dur par un SSD. Ah, ça, d'un coup, la machine, tout allait beaucoup plus vite. Et en fait, sur plein d'ordinateurs, le disque dur, ça a été le point le plus lent. Et tu le remplaces par un SSD et ça va mieux.
Quand on disait que les ordinateurs étaient à remplacer, c'est pas pour cause de panne matérielle. J'ai rarement vu des ordinateurs clamser au bout de 3-4 ans. Je dis pas que ça existe pas.
Chacun son expérience.
Mais en général, c'était plutôt au fait que le nouveau système d'exploitation.
Logiciels, ou la demande qui a augmenté. C'était les besoins qui augmentaient quand même à l'époque. Et or, aujourd'hui, et ça fait quand même 15 ans, j'ai envie de dire que les besoins pour le grand public, sans offense à toutes les personnes qu'on peut considérer comme grand public, les besoins pour le grand public n'ont pas augmenté. C'est pas vrai.
Si bien que maintenant, une tour, on appelle ça un PC gamer.
Exactement.
Qui était un PC standard il y a
Tout à fait. Et même, mais même pour un PC portable, honnêtement, ce qui fait qu'un PC portable ne tient pas dans le temps, c'est qu'il faut le nettoyer, il faut ouvrir, démonter le système de refroidissement, changer la pâte thermique. C'est chiant à faire. Donc je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire, et surtout qu'il y a des machines qui ne sont pas faites pour que ce soit fait, et donc, au bout d'un moment, la machine a des problèmes de chaleur. Mais les ordinateurs modernes tiennent longtemps. Vraiment. Et à côté de ça, Microsoft, en fait, il y a quelques années, avec Windows 11, Microsoft a cédé au lobbying des fabricants d'ordinateurs. Les fabricants ont commencé à dire à Microsoft, non, là, c'est pas possible, vous nous mettez dedans, on a besoin de vendre nos PC, donc faites une nouvelle version de Windows, exigez des composants qui ne sont pas présents sur les PC de maintenant, et c'est tout. Donc les composants qui ont été exigés par Microsoft, ils ont exigé notamment une puce TPM2, donc c'est une puce de sécurité, mais qui n'apporte aucune sécurité concrète pour 99% des gens, ça ne sert à rien. Et donc, rendre cette puce TPM2 obligatoire, ça leur permet de dire, ah ouais, mais non, la Windows 11 n'est pas compatible avec votre ordinateur. Donc il faut un nouvel ordinateur. Et au final, c'est un choix d'obsolescence programmée. Il y a un deuxième choix d'obsolescence, alors lui, qui m'a beaucoup fait rire, qui est tout récent de la part de Nvidia. Il y a des gamers sous Windows donc, qui jouaient à des jeux d'il y a une dizaine d'années. Ils se sont rendus compte avec la dernière génération de cartes graphiques que les jeux marchent moins bien, marchent plus lentement. Et bien en fait, c'était des jeux qui utilisaient une fonctionnalité de physique de l'époque, donc la fonction physics de chez Nvidia. Et des jeux en 32 bits, et Nvidia a décidé d'arrêter le support de cette fonctionnalité. Donc les jeux en question sont beaucoup plus lents maintenant, parce que même si les processeurs sont beaucoup plus rapides qu'à l'époque, un processeur est beaucoup moins rapide pour ce genre de calcul qu'une carte graphique. Et donc ça ne marche plus. Et une dernière pour parler de durée de vie et de problèmes de ce sens-là. Certes, les ordinateurs n'ont pas de problèmes de durée de vie, ou en tout cas n'en ont plus depuis longtemps, mais du côté des smartphones, c'est pas la même chose, et il y a une statistique que j'ai vue passer. C'est aujourd'hui, en France, 2 personnes sur 5 vivraient avec un téléphone portable dysfonctionnel. C'est-à-dire un téléphone portable avec des problèmes matériels, logiciels, ou les deux. Donc du genre, une fonctionnalité qui ne marche plus, une application qui bug ou qui ne s'ouvre pas, des transferts de fichiers qui ne marchent pas, du stockage qui sature, des lenteurs, des difficultés avec la prise jack, ou avec le son, ou avec le flash, ou l'appareil photo, etc. 42%, ils n'ont pas fait exprès. 42% des gens qui ont répondu à une étude disent vivre avec un smartphone dysfonctionnel. Ou en tout cas, c'est classé comme tel parce que, vu ce qu'ils répondent. Et donc, pour 42% des cas, encore une fois, il n'y a pas eu de tentative de résolution. Pour 15%, le problème s'est résolu tout seul.
Supprimant l'application, réinstallant l'application.
Non, mais des fois, ça peut être aussi con qu'un démarrage pour que le problème se résolve. Et un redémarrage complet, on n'y pense pas forcément tout le temps pour un téléphone. Et 25% des cas, c'est la tentative de résolution a raté, et 18% la tentative a réussi. Mais aujourd'hui, en fait, si on regarde notamment les remplacements de téléphones portables, 15% des téléphones remplacés étaient réellement inutilisables. Ça veut dire que 85% des téléphones remplacés étaient encore utilisables. Ça m'inquiète beaucoup, par contre. Et autant du côté des ordinateurs, la durée de vie d'un PC est quand même largement meilleure qu'à une époque.
Autant les téléphones.
Les téléphones portables, on est très très loin derrière. Alexandre, bon, je sais pas de quand date ton téléphone.
Ça s'améliore 4 ans.
C'est pas encore énorme.
C'est pas énorme. Oui, non, mais c'est vrai que ça change plus fréquemment.
On est obligé de le changer plus fréquemment. Alors certes,
ça
s'améliore
quand
casse,
même.
Mais...
parce que au début du smartphone, des générations du smartphone, dans les années 2010, on sentait quand même que les smartphones vieillissaient vite. Maintenant, que ça s'est beaucoup plus généralisé, que c'est devenu, qu'on peut le déplorer, on peut s'en réjouir, c'est devenu socialement quelque chose de quasi indispensable. Au final, il y a moins la course à la performance et pareil, on a atteint un peu comme sur le PC fixe, en fait, le PC de bureau ou le PC portable, une espèce de plateau. C'est moins besoin et moins de problèmes de performance. Bah après, c'est l'écran qui casse. Alors,
et la,
le mien, c'est la carte SIM qui est pas reconnue, une photo d'écran qui est plus reconnue.
Sympathique.
Ouais, pourtant, c'est quand même un fabricant
et là, on
reconnu.
Est...
Par contre, là, c'est l'avantage d'avoir un fabricant reconnu, c'est que j'ai encore des mises à jour régulières.
Voilà. Mais ça, cet aspect-là, il est encore très compliqué sur les téléphones portables. Et juste pour rire, une dernière blagounette pour parler quand même de Windows 11. Microsoft, ces dernières semaines, ces derniers mois, on n'en parle pas forcément dans l'émission, mais Microsoft complexifie encore plus au fur et à mesure la possibilité d'utiliser un ordinateur sous Windows 11 sans avoir un compte Microsoft connecté en ligne. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser avec juste un compte local, vous ne pouvez pas, vous devez avoir une connexion Internet et utiliser un compte,
sauf si vous êtes dans Microsoft environnement déconnecté.
Mais même si dans ce cas-là, tu as besoin d'une licence pro, pas une licence...
Oui, voilà, pour le grand public, personnel. C'est plus compliqué.
Voilà. Et encore, même certaines licences pro, ça ne passera plus.
Merci pour cette dégicalisation, Pierre, fort instructive comme de coutume. Nous allons écouter un troisième morceau de musique, Bellevue. Bref, vous écoutez les Codes des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Bellevue. Bref, vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6. On termine les actualités avec des nouvelles logiciels libres, bien évidemment. Et Pierre veut nous causer d'Android.
Oui, on va commencer libre. Ouais, je sais. Mais justement, j'aurais dû sortir un petit rip ou un petit jingle de
tiré-couillet.
Voilà. Donc, le développement d'Android se fait. Ça s'est toujours fait avec deux versions. La version Google et la version AOSP. AOSP, Android Open Source Project, qui est sous licence libre, effectivement, licence Apache 2. Et donc, Google développait les deux en même temps et faisait des transferts entre les deux. On va dire, prenait des modifications qui étaient validées, il les mettait dans la version open source. Désormais, ça a changé. Désormais, tous les développements seront faits dans la branche interne de Google et de temps en temps, les développements sont poussés dans la branche ouverte. Donc en fait, aujourd'hui, enfin désormais, le développement d'Android est un développement fait par Google
pour ses propres besoins.
Pour ses propres besoins, ils donnent le code de temps en temps.
Mais ça passait pas pour un projet communautaire non plus Android.
C'est plus communautaire, c'est pas communautaire du tout. Et certes, ça ne va pas changer de façon majeure l'impact. Enfin, ça ne va pas avoir d'impact pour les distributions alternatives pour Android, donc les Lineage OS et autres. Mais là où ça va avoir de l'impact, c'est les gens qui veulent contribuer à Android. Désormais, ils n'auront aucune visibilité de ce qui est en cours de développement, de ce qui est prévu, de ce qui va arriver. Ils veulent contribuer à quelque chose. Oui, bah, peut-être que c'est déjà fait chez Google, peut-être que c'est déjà obsolète. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Contribuez, vous verrez si ça sert à quelque chose. C'est vraiment, on est très loin du principe d'un logiciel libre.
Vous cherchiez un logiciel d'édition d'images simple à prendre en main et libre. On a un logiciel de gestion d'édition d'images libre. GIMP 3.0 vient de sortir.
Alors, je sais pas à quel point j'avoue que je comprends rien à la gestion d'images, les questions de couleurs et autres, donc je suis très mauvais là-dedans.
Oui, bon. C'est un logiciel libre qui a pas mal de fonctionnalités, donc Krita ou le Paint libre, je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin, son équivalent libre n'est pas suffisant. Bon, je prends mon courage à deux mains et j'utilise GIMP.
Oui, alors effectivement, tu as donné le nom de Krita. Donc, rappel, GIMP est un éditeur d'images à ne pas confondre avec Krita, qui est plus un logiciel de dessin. C'est une grosse subtilité. Le logiciel Krita, il y a...
Pour changer la compression d'une image, je n'ai pas trouvé mieux que GIMP.
Ouais, effectivement, ça marche plutôt bien pour ça. Mais donc, il y a une vingtaine d'années, au sein du projet Krita, il avait été décidé que l'édition d'images, c'est bien, mais c'est pas leur taf. Ils se sont concentrés sur le dessin et ça fait que c'est un logiciel qui est à la pointe en logiciel de dessin. Réellement, c'est utilisé dans des écoles et tout, parce que c'est un excellent logiciel de dessin. GIMP, lui, se concentre sur l'édition d'images et de dessin. On peut dessiner avec, et les outils sont intégrés pour... Ils ne seront pas aussi avancés que ceux de Krita, mais il y a des outils de dessin d'image. Alors, GIMP 3, c'est... Ça faisait quelques années que c'était attendu, quand même. Hein. Ça fait 7 ans que c'était en développement. Alors, il y a des changements un peu partout. La plus grosse amélioration qui est arrivée, c'est les filtres non destructifs. C'est assez pratique. Mettons, vous avez une image, vous appliquez un filtre, couleur sépia, et vous voulez remodifier l'image telle quelle, le filtre a déjà détruit l'image de base. Ça marche plus, vous pouvez plus retourner sur les couleurs d'avant.
Il a pas gardé l'ancienne en mémoire ?
Non, tu dois annuler.
Ouais, un CTRL-Z quoi.
Ouais, mais tu dois annuler. Et donc, si t'avais fait d'autres choses après, tu peux pas.
Ah, ouais, d'accord, je vois ce que tu
veux. Le calque a été détruit, le filtre n'est pas appliqué au calque, le calque est remplacé par le résultat du filtre. Désormais, le filtre est appliqué dynamiquement. Donc, c'est la fonctionnalité, à mon sens, qui était la plus attendue, c'est donc les filtres non destructifs. Alors, il y a plein d'autres fonctionnalités, il y a des améliorations sur le support de différents formats de fichiers, etc. C'est pas mal de choses. Ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous invite à aller essayer.
Bon, sortie logicielle, GNOME 48.
Je te laisse en parler parce que moi, je connais pas du tout.
Ou alors, à vrai dire, moi, j'utilise Cinnamon, donc okay. GNOME 48.
Donc, nouvelle version de l'environnement de bureau GNOME, alors qui arrivera dans toutes les distributions à partir de les distributions d'avril. La grande fournée devrait proposer ça.
ReactOS 0.4.15.
Si tu veux déjà arrêter GNOME, pas de problème. Alors, Blender 4.4, ça, c'est important parce que c'est aussi l'occasion de parler de Flow, un dessin animé, film d'animation qui a gagné un prix au...
Non.
On en a déjà parlé ?
Le démonstrateur de Blender ? Or je confonds avec un autre peut-être.
Flo a gagné des prix tout récemment.
Récemment, pardon. Oui.
Ah oui, non, mais récemment, c'est là, je l'ai vu au cinéma, un cinéma dans le coin. Enfin, j'ai vu qu'il était à l'affiche. J'ai pas encore pu le voir. Et donc, ce film-là a été réalisé avec Blender. Et donc, ben, des améliorations de Blender dans cette nouvelle version, certaines ont pu être réalisées pour les besoins du film. Donc, Blender 4.4, ceux qui s'intéressent à la modélisation 3D et à l'animation et au film, enfin, la manipulation de film, n'hésitez pas à jeter un œil. Et Blender est aussi un éditeur de vidéos pour ceux que ça intéresse.
Rockbox. Ce 4.0, je ne sais pas.
Ah oui, bah ça c'est parce que c'est le petit côté nostalgique, c'est le petit cadeau pour faire une petite émission sympathique qui s'arrête bientôt malheureusement. Donc Rockbox, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as encore un baladeur, Alexandre ? J'en vois un
oui,
sur lequel tu me donnes.
Oui, une sorte de clé USB pour héberger, transporter les... C'est un Kowon.
Un Kowon, eh bien Alexandre, je crois que tu seras...
Je l'ai acheté il y a 10 ans et ça devait être à tes derniers disponibles.
Je pense que tu seras heureux de savoir que je crois avoir vu Rockbox 4.0, je crois avoir vu le support des baladeurs Kowon dedans. Donc si tu veux, tu pourras regarder.
Je pense que j'ai pas écouté de musique avec. En fait, j'ai plus de casque avec une prise jack.
C'est dommage. Et donc...
Ah si, il y en a un, mais il faut que j'achète une prise jack.
Parlons de Rockbox. En fait, pour les gens qui possèdent des baladeurs, notamment bah, tout ce qui est iPod ou autre, bah, l'un des problèmes de l'époque, et moi j'avais été confronté à ça lorsque j'en avais un, c'est le support de différents formats audio, c'est les bugs ou l'interface qui peut être vraiment pourrie parce que
le Kowon, il gère le FLAC, il gère log. C'est pour ça que je l'avais choisi.
Je ne dis pas que ce Kowon est pourri. Mais voilà, il y a des fabricants qui font du matériel qui est parfaitement capable, mais avec des logiciels parfaitement ratés dessus. Et donc, ben, Rockbox, c'est une alternative libre, à la base qui avait été prévue pour les Arcos Players, donc ça ne nous rajeunit pas.
Ouais,
comme tu dis. Donc, c'est Rockbox 4.0, c'est une nouvelle version. Donc, si vous avez encore un baladeur, si vous l'utilisez encore, n'hésitez pas à regarder si, ben, par hasard, votre matériel ne serait pas supporté et s'il ne pourrait pas y avoir des fonctionnalités intéressantes à tester là-dedans.
Merci Pierre. C'était donc l'actualité des... 4, non.
Allez, on se fait une dernière pour
rapide,
rire.
Très rapide.
Allez, très rapide. Le projet Python, il y a quelques semaines, quelques mois, avait annoncé « Ouais, on a fait une amélioration de l'interpréteur, on gagne encore 10% en temps d'exécution, c'est trop bien, c'est trop génial, c'est bluffant et tout. » Alors, moi, j'étais intéressé à ça et j'avais fait « Putain, c'est marrant quand même, un tel gain, c'est... » Ok, j'étais très surpris, très très surpris, mais je me disais « Bon, c'est superbe nouvelle. » Et puis je m'étais dit, ben, je vais peut-être même voir pour l'appliquer à d'autres projets, parce que cette partie de Python, voilà, on pouvait l'adapter à d'autres projets. Il y a eu une petite rétractation que j'ai trouvée très drôle. Ils ont fait... le gain de performance, c'est juste que c'est par rapport à une version buggée du compilateur qu'on a gagné des performances. En fait, on a gagné... On est sur le fil du trait pour savoir ce qu'on a gagné.
Les rétractations,
voilà,
comme au beau vieux temps de l'époque Covid.
C'est ça. La science, en fait, ça consiste à vérifier avant de dire à tout le monde « j'ai fait une révolution ».
Oui,
quand même,
ça,
s'il vous plaît, les gens.
Je ne m'écris pas avec un druide marseillais. Un petit point sur l'agenda rapide. Donc, une exposition, le numérique en eau trouble à l'OMJC, ferme du Pirée, à Villeneuve-d'Ascq, donc du 24 mars au 2 mai, dans le cadre de Libre à vous. Donc, une exposition sur l'impact grandissant du numérique dans notre quotidien. Et comme tous les derniers mardis du mois, donc le mardi 29 avril, la permanence de l'association Stinux de 20h à 22h. Donc, au café. Café citoyen, place du vieux marché aux chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. De délicieuses boissons équitables et bio vous sont présentées, proposées.
Vous
à prendre une boisson, voilà, pour financer, enfin pour la permanence, mais voilà, pour que on continue à disposer donc de ces locaux une fois par mois. C'était donc le 282e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines. Nous serons donc le dimanche 20 avril pour le numéro 283. Tout de suite, vous avez rendez-vous.
Je vous rappelle, dans deux semaines, sortez votre Lazarus du placard pour faire des applications en Pascal. C'est le week-end de l'année pour faire ça, je vous rappelle.
Et bon week-end Pascal, ainsi qu'à Pierre, ainsi qu'à toutes nos éditrices et à tous nos auditeurs.
Oui,
bonne fin de soirée.
Désolé pour ce jeu de mots.
Tout
je le fais tous les ans.
De la musique électro avec Chupa Pimento. Au revoir à tous.
Bye bye.
Le libre n'est pas une jungle.